avec Aurélien Boucher, guide conférencier historien, et avec Delphine, on va parler histoire. Bonjour Aurélien, bonjour Delphine.
Bonjour.
On va parler architecture, avec les pans de bois évidemment.
Voilà, ça c'est un des symboles de Chalon. Quand on est chalonnais, on ne peut pas le manquer. Quand on n'est pas de Chalon, on n'imagine pas la ville comme ça, mais le pan de bois, c'est 60% du bâti intramuros de Chalon.
D'accord.
Ça, c'est pas très connu. La petite subtilité, on y reviendra, c'est qu'il y a beaucoup de pans de bois à Chalon qui étaient recouverts de crépi à une époque. On veut protéger des incendies, on trouve que c'est moche à une époque, et on veut le cacher. Donc il y a énormément de pans de bois qu'on ne voit pas à Chalon, effectivement.
Alors qu'on ne voit pas, mais comment vous, vous savez ?
Alors quand on
vous
se balade...
Vous avez gratté toutes les façades ?
Ah, j'ai mon petit moyen mémotechnique. On se balade dans la rue de Marne, on va dans la rue de Châtillon. Reconnaître un pan de bois qui est recouvert de crépi, bah, si vous avez déjà un pan de bois dans une rue, il y a de fortes chances qu'à côté, il y en ait un, sauf bombardement ou art déco. Et quand on regarde ces façades, il y a un petit peu de fissure dedans. Vous regardez les encadrements de fenêtres, on devine les poutres, on les voit, effectivement. Et sur les côtés, entre deux maisons, on voit justement la poutre de bois, l'énorme poutre de bois qui fait l'armature. Et tout ça, c'est des signes qu'on a bien du pan de bois, mais qui est recouvert de crépi. Les toits sont plats, en général, ou alors légèrement en triangle, mais ce n'est pas les maisons alsaciennes non plus. Et ça, c'est un signe de pan de bois recouvert de crépi.
D'accord. Mmh. Donc, ce qu'on voit, je pensais qu'il en restait moins que ça. Vous annoncez 60%.
Effectivement. Mais dans le centre, 60% du bâti de Chalon, c'est toujours du pan de bois. Donc, on est la deuxième ville de Champagne où il y en a le plus, après Troyes, voilà, qui est méga connue, la ruelle au chat. Et Chalon, on en a plein. Alors, la technique du pan de bois, si on la reprend d'origine, c'est 12e siècle. Ça vient d'Allemagne. Et l'idée, c'est de faire un ouvrage de maçonnerie au sol. On se fait un carré en pierre. Et ensuite, on vient assembler ces poutres comme les Legos. C'est exactement ça. Toute l'armature, les étages, presque un plancher. Et on vient combler les interstices avec du torchis, avec de la chaux. Ça durcit. Et là, on a alors pan de bois, colombage. Le terme le plus approprié, c'est bien pan de bois. Mais colombage, ça vient d'où ? En latin, c'est columna. Columna, ça va donner colonne, et ça va donner aussi colombe. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un colombage à l'époque ? En fait, étymologiquement, c'est une poutre dans un mur. Voilà, donc columna, voilà, colombe, colombage, on est tout à fait dans cette étymologie-là. Et donc, Chalon, elles vont être construites majoritairement, nos maisons, fin 15e siècle, celles qui nous restent, et 16e, 17e siècle, par les riches bourgeois chalonnais qui font fortune dans la laine à l'époque, quand on était ville drapière, du 12e au 17e siècle. Et dans leur organisation, quand on les regarde souvent, elles ont presque la même organisation. Le rez-de-chaussée était commerce, premier étage, patron, deuxième étage, domestique, et les lucarnes, c'était le grenier qui faisait office de réserve.
D'accord, qui s'est transformé par un ciel pour les chambres de bonne.
Voilà, effectivement. Et donc ces maisons, alors vous allez dans la rue de l'Abbé Lambert, au-dessus de la boulangerie Chaumeil, il y a une poutre qui reste avec une poulie, et vous imaginez qu'à l'époque, sur chaque maison à pan de bois chalonnaise, on a ça, pour se passer à la corde les marchandises, du commerce au rez-de-chaussée, la réserve, de la réserve au rez-de-chaussée. Il n'y a que 3 ou 4 maisons dans Chalon, on a toujours la poutre et la poulie, comme Amsterdam aujourd'hui, ou Bruges, où il y en a beaucoup, effectivement.
D'accord, alors on est à l'origine, 1200, ce bois arrive d'Allemagne principalement, j'imagine que c'est la forêt noire qui est
pas
le
mal, effectivement, qui explique la couleur effectivement aussi des pans de bois, et après nous pour la région, il y en aura du côté de Vitry, il y en aura de la forêt d'Argonne, il y en aura de la forêt du Der aussi, qu'on va utiliser aussi pour les charpentes de Notre-Dame-en-Vaux par exemple.
D'accord.
Et donc on assemble tout ça comme les Legos, on a des numéros, et hop, pas de clous, pas de vis, c'est les petites chevilles de bois, ça c'est impressionnant. Et le pan de bois, alors on en a perdu une partie fin des années 60, début des années 70, bah c'est tout le quartier un peu Saint-Dominique, la place des Quatre Fils Aymon derrière l'office de tourisme. On va considérer à l'époque que c'est insalubre, et la maison natale de Cabu, dont il n'était pas propriétaire, elle était dans ce lot-là. Elle va être détruite, lui il est horrifié, et fait la série de caricatures qu'il appelle voilà, Ouvrez le massacre, effectivement.
Voilà, tout à fait, avec l'opéra aussi d'ailleurs.
Voilà, on perd l'opéra, on perd énormément de choses à cette époque-là, on n'a pas la conscience du patrimoine, et la mairie de Chalon va acheter toutes les caricatures de Cabu pour pas que ce soit diffusé à l'époque. On se dit, ah, ça devient problématique, vengeance de Cabu entre deux tours des municipales. Il ressort les caricatures, et la municipalité sortante qui avait voté l'abattement du pan de bois n'est pas réélue. Donc, il a eu gain de cause, au final.
La puissance du dessin.
Ah oui, c'est phénoménal.
Et du coup, la question qui me venait, c'est on est à combien de populations à Chalon dans ces années-là, dans les années de 1200
1200, alors on va être à peu près à 10 000 habitants effectivement, à Chalon, donc c'est déjà pas mal. Effectivement, ça grandit de plus en plus. Et on avait une ville qui était plutôt en forme d'œuf, voilà, qui allait... On partait de l'hémicycle, à peu près, rond-point de l'hémicycle. On s'arrête à Notre-Dame-en-Vaux. Et sur les côtés, ça va être pont du marché, le château du marché et le pont des mariniers. Voilà, ça, c'est l'enceinte de la ville à cette époque-là. Donc on se met en bordure de rivière. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pans de bois. Encore aujourd'hui, pas mal de ponts. On a 42 ponts et passerelles aujourd'hui dans Chalon et son agglo. C'est plus que Paris.
D'accord. D'ailleurs, on peut retrouver sur les lithographies de Barba
oui.
Des belles représentations de ces époques.
Avec Chalon à cette époque-là, effectivement, et il y a la suite donc, de Cabu, de l'épisode du pan de bois. Mais on a les Amis du Vieux Chalon, l'association qui existe encore, qui va aller à la caméra thermique dans certaines rues et montrer aux propriétaires qu'il y a du pan de bois derrière leur crépi. Et c'est là qu'on décrépise, comme je vous dis, dans les années 70. Il y a beaucoup de maisons dans la rue de Châtillon, justement, vous allez les voir. Elles sont décrépisées dans les années 70. Et toutes les maisons qui sont en bordure de rivière, en face de l'office de tourisme, même chose, elles étaient recouvertes. On les a découvertes, redécouvertes. Et l'office du tourisme aussi, il n'était pas là à la base, il était dans la rue de la Petite Juiverie, à 200 mètres. Les Amis du Vieux Chalon se battent, font démonter la maison... inventorié, comme les Legos, on l'a remonté en 80 quai des Arts. Depuis 83, c'est le siège de l'office de tourisme.
D'accord. Alors on a pour référence aussi à Chalon-Champagne, quand on parle de pan de bois, la maison Clément-Gis.
Effectivement, oui, ça aussi c'est une maison qui a été sauvée, mais qui était plutôt dans la rue Clément-Gis actuelle. On a ses rénovations, et les Amis du Vieux Chalon la font démonter. On la remonte derrière Notre-Dame-en-Vaux, et celle-là, elle est remarquable. Moi, j'invite tous les auditeurs à aller y faire un tour, à en faire le tour. C'est la maison à pan de bois, officiellement, la plus vieille de Chalon. Celle-là, elle date du XVe siècle.
D'accord.
Et quand on la regarde, effectivement, on a une architecture presque alsacienne. Voilà, le côté noir. Et c'est une maison... Alors, vous allez aussi Place de la République. On a des maisons qui sont dites à encorbellement, quand vous avez le rez-de-chaussée qui est encaissé, et les étages qui dépassent avec des arches. Ça, c'est un paquet fiscal à l'époque parce qu'on paye la taxe foncière sur le mètre carré du rez-de-chaussée.
L'occupation au sol, d'accord.
Voilà, les régions, c'est la taille des fenêtres, voilà, la Normandie notamment. Chalon, c'était le rez-de-chaussée, donc on a plein d'encorbellements, pas du tout pour l'architecture ou se protéger de la pluie. C'est un package fiscal, ça, c'est à savoir.
D'accord, d'accord. Et puis, on se retrouve aussi avec des maisons qui ont des fenêtres très réduites quand même. Ça, c'était pour le froid, pour se protéger.
Le froid aussi, on veut faire passer la lumière. Donc, on a des fenêtres pas très grandes, avec un verre assez épais. Quand vous avez le soleil dessus, ça fait un petit effet chauffage, effectivement.
D'accord.
Et on a des maisons de taille différentes aussi. Je pense à la Place de la République, du côté des boulangeries ou du Diplomate. Ça monte, ça descend, c'est les montagnes russes. Bah, la richesse du Chalonnais à l'époque, elle se voit à la hauteur de sa maison. Et on voit les disparités, effectivement, quand on va à Place de la République. Il y en a des petites, il y en a des grandes, il y en a des assez épaisses, d'autres qui sont étroites. Bah, ça, c'est le niveau de richesse de l'époque.
Est-ce qu'on retrouve aux archives municipales les noms de famille, peut-être de ces propriétaires terriens, de ces maisons chalonnaises ?
On peut retrouver quelques-uns, effectivement. Donc il y a Clément-Gis déjà pour la maison Clément-Gis. On avait la famille Royer aussi à une époque, des marchands qui ont été propriétaires de maisons à pans de bois. Et ça donne aujourd'hui, par exemple, les Caudalie, l'hôtel Royer Grand-Île. Ah, c'était racheté par les Grand-Îles, qui ont continué. Mais tout ce qu'on a à côté, notamment le magasin La Besace et le Diplomate, ça appartenait à la famille Royer à une époque. D'accord. Et donc, on remonte comme ça. Les Châtillons, il y a une rue de Châtillon. Bah, ils ont été propriétaires de maisons à pans de bois aussi. Et donc, on retrouve des noms voilà, qui sont connus des Chalonnais encore aujourd'hui. Et ça explique certains noms de rues aujourd'hui aussi.
D'accord, d'accord. Comme peut-être la rue d'Orfeuil, qui... on sait que monsieur et madame Dorfeuil, on a la rue Garinet aussi.
Voilà, effectivement, oui, attaché au grand personnage, on en a pas mal comme ça. Et des rues aussi qui ont changé de nom à travers le temps. Alors on avait la rue Dorfeuil, c'était la rue de Brebis à une époque, parce qu'on avait un hangar pour garder la laine. Dorfeuil étant célèbre, notre premier intendant, on lui donne le nom de la rue.
Puis c'est quand même plus sélect.
Effectivement, oui. Et le nombre de boutiques qui s'appellent Dorfeuil, les mariés Dorfeuil, le coiffeur, la mercerie, on a tout plein. Mais quand on continue dans la rue d'Orfeuil, on arrive presque en face de la Malle-Poste, le commerce. Il y a une impasse Brebis qui est là, qui est toute petite. Bah ça, c'est un hommage à l'ancien nom de la rue.
D'accord.
Et partout, quand on regarde bien, on regarde sur les côtés, il y a du pan de bois qui est recouvert de crépi.
D'accord. Donc, et pour les maisons qui sont décrépisées, on dit comme ça,
décrépisé. Oui, décrépisé, oui, oui, tout à fait.
Il y a eu un traitement par la suite, parce que le
C'est le problème, le pan de bois qui est trop recouvert de crépi, pendant un moment, il va pourrir. Effectivement, il y a un risque d'effondrement. Donc il faut décrépiser, il faut venir nettoyer un petit peu le bois, mettre un traitement. Alors ça, ça se voit aussi avec les monuments historiques. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, effectivement, pour redonner son lustre au pan de bois. Et donc le pan de bois chalonnais, historiquement, il n'a pas été peint comme celui de Troyes. Et donc on avait eu un petit scandale rue Croix des Teinturiers. Il y avait une agence immobilière qui avait repeint en bleu justement une partie de son pan de bois.
Je m'en souviens très bien.
Ça a été autorisé, ça n'aurait pas dû, effectivement. Il y a un recours qui a été posé. Alors c'est très joli, mais effectivement c'est un bleu qui fait un peu bleu Ikea. Voilà, c'est pas les couleurs d'origine.
Bleu turquoise.
Voilà, bleu turquoise, effectivement. Et normalement, voilà, le pan de bois chalonnais n'était pas peint, donc on ne conseille pas de repeindre. Voilà, faut garder la couleur d'origine avec traitement par les monuments historiques. Voilà, c'est compliqué, mais c'est faisable.
Ce qui concerne les intérieurs, la maison Clémenchis a des poutres intérieures au dernier étage.
Oui.
Ça, c'est d'origine. La configuration est d'origine.
La configuration est d'origine. Alors, il y a des petites choses modernes qui ont été ajoutées. Il y a du double vitrage, forcément, et des petites choses comme ça. Mais on est dans la configuration. Ils ont voulu garder tout ça. Et c'est vrai que l'intérieur d'une maison à pan de bois, bah, c'est comme la maison alsacienne. Vous avez des poutres apparentes, en général. C'est assez haut de plafond, justement, puisqu'on n'avait pas beaucoup de pièces. En général, c'est une pièce qui faisait tout... Alors, pas l'appartement, mais l'habitation de l'époque. Et donc, l'ingéniosité, ça garde très bien la chaleur. Alors, ça garde limite mieux la chaleur, un pan de bois du 15e, 16e, 17e siècle, qu'un bâtiment art déco des années 1920. Là, ça, c'est assez fou. Les bâtisseurs avaient compris plein de choses.
D'accord. Tout est passionnant. Merci beaucoup, Aurélien.
Merci.
Merci, Aurélien. À très, très bientôt.
À bientôt.